Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Baba Kama, page 95, Daf Tzadik He. Bonne écoute et bon limoud.
On répond donc Kan Bigzela Kayemet. Toutes les braïtot qui parlent de restituer les objets volés et qu'on est habilité à les accepter, c'est dans le cas où l'objet volé il est encore entier dans les mains du voleur. Et Kan, toutes les braïtot qui nous parlent de décliner, de refuser le remboursement du voleur, ça parle d'un cas où l'objet volé n'est plus dans ses mains et qu'il se propose de nous indemniser. Et là, on nous dit, pour favoriser sa teshuva, refusons sa proposition de rembourser.
Maintenant, la Gemara a une question sur l'anecdote qu'on a rapportée dans la Braïta pour justifier la nécessité de faire une takana. Là-bas, on parle d'une ceinture. La femme dit à son mari, mais si tu fais teshuva, même la ceinture que tu as sur toi, tu vas devoir la vendre. Et là, là-bas, il semble qu'on parle d'une ceinture, donc de l'objet volé lui-même. Et c'est pour ça que on a établi la takana. Alors, la Gemara dit, non, Maï et Avnet, de quelle ceinture s'agit-il? De mes Avnet. C'est l'argent, il faut comprendre dans la vérité que c'est la valeur de la ceinture que tu as sur toi, que tu as acheté avec l'argent volé et que tu vas devoir restituer. C'est ça ce que la femme, elle dit à son mari là-bas. Parce que, évidemment, si c'était la ceinture elle-même, il n'y a pas de takana pour cette situation. Il faut absolument la ceinture. Maintenant, la Gemara, elle a une autre objection sur la précision de Rav Nachman. Elle dit, V'chol Echa d'Exera Kaimet. Donc, c'est bien vrai que chaque fois que l'objet du vol il est encore là, l'eau avoud rabban takanta, les rachamim n'ont pas fait de takana, il faut la rendre. Vahare, voilà pourtant Merish, la fameuse poutre dont on parle dans la Mishnah qui suit, ça parle bien du Xela Kemet, c'est un vol qui est encore présent entre les mains du voleur. Utnan, et à ce sujet, on a enseigné à la Merish, à Gazoul, les rachamim ont fait une takana concernant la poutre qui a été volée chez Benao Bebira, que le voleur il a intégré dans une construction, chez Itol Damav, que le volé il prendra seulement la valeur de la poutre. On n'obligera pas le voleur à démonter sa construction pour restituer la poutre, bien que Minatora soit exactement ça qu'on attend de lui, mais Mipne Takanat Hashavim, pour faciliter la teshuva des voleurs, alors les Chachamim ont diminuer la prévention du volé, ils ont dit qu'ils peuvent se contenter d'être indemnisés. Donc on voit ici que l'objet volé, il est encore entre les mains du voleur, et pourtant il est dispensé de le restituer. Alors l'Agman répond que ce que Renarman a dit, que quand l'objet il est encore présent dans les mains du voleur, il faut le restituer. Ça c'est vrai dans tous les cas, sauf lorsque l'objet il a été investi, il a été intégré à une construction. Donc, Shani Atam, c'est différent là-bas. Les Kevin, les Kapsela, les Bera. Comme il faut abîmer toute la construction pour pouvoir la restituer, Shaviwa Rabanan, les Rahmim, ils ont considéré, ils ont traité ce cas-là, Kedelita, comme si elle n'était plus là, et qu'on pouvait se contenter juste d'indemniser le volet. Revenons maintenant à la Mishnah, sur le cas de Gazal, Para, Moberet, Veyalada. On va étudier qu'est-ce qu'il faut penser du vol qui a produit des fruits. Est-ce que le voleur il a des droits sur ces produits ou pas? L'Agmara va nous s'apporter une braïta qui traite de ce sujet. Tanou à banane, les Chachamim nous ont enseigné à Gozel Rachel Uzeza Veyalada. Je saute volontairement le mot para parce que il est en trop, ainsi que le souligne le bar. Donc, celui qui a volé une brebis et qu'il l'a tondue dans sa propriété, ou bien qu'elle ait mis au monde l'agneau qu'elle portait dans sa propriété. Il semble du texte que la brebis, elle avait déjà la laine sur le dos au moment du vol et qu'elle était déjà porteuse de l'agneau déjà au moment du vol. Et il y a eu plus-value du vol par le fait que la brebis est la mise au monde de l'agneau et la laine a été tendue, ce qui bien sûr augmente la valeur des produits une fois qu'ils sont prêts à utiliser. Alors qu'est-ce qu'il faut rembourser? Le premier avis pense, Meshallem Ota, le voleur doit restituer la brebis elle-même, ou sa valeur, si elle n'est plus là, Vet Gizotera, et la toison avec la plus-value qu'elle représente une fois qu'elle est tondue, ou sa valeur, Vet Vadotera, ainsi que les agneaux une fois qu'ils sont nés, ou leur valeur, s'ils sont plus là, mais avec la plus-value qu'ils représentent une fois qu'ils sont nés. Dit Rabbi Meir. Ça veut dire que Rabbi Meir voit aucun droit pour le voleur. Le produit volé ainsi que tous les fruits qu'il a donnés appartiennent intégralement au volé. Rabbi Yehuda Omer, Gezela, il n'y a que l'objet volé, c'est-à-dire la brebis, qui est Choseret Beina, qui retourne, qui doit être restitué dans l'état, c'est-à-dire en nature. Par contre, les agneaux et la laine, le voleur n'aura pas à les restituer puisqu'il les a acquis par transformation, par modification de la naissance et de la tonte. Il n'aura que à indemniser le volé à concurrence de la valeur des agneaux et de la laine au moment où ils étaient encore sur la brebis. Alors bien que ça ne figure pas dans le texte, ce que Rabbi Yehuda pense des agneaux et de la toison, Rashi dit qu'il n'est pas pensable que Rabbi Yehuda puisse dire qu'on ne restitue que la brebis et rien concernant les agneaux et la laine. Parce que même modifié ou transformé, l'objet volé, il devient peut-être propriété du voleur, mais le voleur n'en reste pas moins redevable de la valeur des objets volés avant modification. Rabbi Shimon Omer, troisième avis, Roin Ota Keilu, on considère, on fait comme si Hishuma Etzlobe Kesef, comme si la brebis avait été évaluée auprès du voleur au moment du vol, c'est-à-dire avec la laine sur le dos et l'agneau qu'elle porte. Et c'est cette somme-là qui va servir de référence pour indemniser le volé. Alors, Rabbi Shimon, il a l'air de dire la même chose que Rabbi Yehuda dans d'autres mots, c'est-à-dire essentiellement qu'on ne fait pas comme Rabbi Meir, de donner toute la plus-value au volé, même celle qui se développe chez le voleur, mais uniquement ce que l'objet du vol est valé au moment du vol. Et l'Agmara va préciser quelle est la différence qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. L'Agmara va maintenant éclaircir plusieurs points concernant cette braïta. Alors le premier, on s'est posé la question suivante. Maït Hamed de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Il a demandé de restituer la totalité des fruits, même avec la plus-value, qui s'est développée chez le voleur, au volé. Est-ce que Mishum ne Katabar Shinobim comme Mohamed? Est-ce que la raison est qu'il pense que la transformation ne crée pas de changement de propriété, donc tout le bénéfice qui s'est développé chez le voleur, il appartient au volé? Oh, Dilma, ou peut-être Balma Shinobim connaît. Peut-être, habituellement, Rabbi Meir pense que la transformation crée un changement de propriété. Seulement, Acha ici, Knasaou de Takanis. Ici, c'est une mesure de rétorsion contre le voleur, puisqu'il a fait une avéra, qu'il a volé. Alors, même la plus-value qui était le fruit qui normalement lui appartiendrait, on va lui demander de le restituer. Le Maïnaskin, maintenant, l'Aïmara, c'est-à-dire, quelle est l'incidence pratique entre ces deux explications? Comment répondre? Les Had Karshan Krash, c'est lorsqu'il n'y a pas eu plus-value, mais lorsqu'il y a eu moins-value, il y a une détérioration de l'objet volé chez le voleur. Si on dit que la transformation, elle crée un changement de propriété, alors c'est le voleur qui aura perdu, parce que lui, de toute façon, il doit restituer la valeur de l'objet volé au moment du vol. Par contre, si on dit que la modification, la transformation, elle ne crée pas de changement de propriété, alors ce sera le volé qui aura perdu cette moins-value. Tachema. Ça me ramène une baraita. Gazal Bema Vizkina. Si on a volé un animal et qu'il a vieilli, Avadim, ou si on a volé des Avadim Kenanim Vizkino, qu'ils ont vieilli, Moshalem Kushatakzela, le voleur devra quand même indemniser le volet au prix où il valait au moment du vol. Pourquoi ? Parce que la transformation, elle a créé un changement de propriété, et le voleur, il reste redevable des objets volés au moment du vol. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, « Bah, Vadim, Omer le Rejel Chafanera. » Pour la Vadim, il peut dire au volé, « Voilà ton serviteur, ton Eved, dans l'état où il se trouve maintenant. » Il semble bien que Rabbi Meir n'est pas d'accord que pour les Avadim, Ve'ilou Behema. Par contre, pour l'animal volé, que Shatakzila, il est d'accord que Zanakama, qu'il y a transformation et qu'il est redevable de l'objet volé comme il était au moment du vol. Mais ça kadatar. Si maintenant tu veux envisager que ça va Rabbi Meir chez nous, Bim Komomed, Rabbi Meir pense que la transformation ne crée pas de changement de propriété, alors Afilou Behema, l'ami, il aurait dû se prononcer aussi pour l'animal, comme pour l'Eved, dire qu'il peut la restituer dans l'état. Et là donc, là, c'est pas comme ça, Shmamina, il faut comprendre de là qu'à savoir Abimeir, Abimeir pense, Shinui connaît que toute transformation, ça crée un changement de propriété. Et dans la Braïta du haut, si Abimeir dit qu'il faut tout restituer au volet, c'est seulement Knasahu, Degaklanis. Alors sous cette preuve, Amré, il y en a qui disent la réfutation suivante. Rabbi Meir, peut-être que Rabbi Meir le dit vrai, M. de Rabbanan, Kamar Lehu. Dans la Braïta de la BMH Iskina, il ne parle pas d'après son point de vue, mais d'après le point de vue des Chachamim, et voici ce qu'il leur dit. Le Didi, d'après moi, de toute façon, Shinui, elle connaît. Une transformation, ça ne crée pas de changement de propriété. Donc la filou BMA, un ami, même une BMA qui a vieilli, elle reste dans la propriété du volet, et c'est pourquoi il peut lui remettre dans l'état. Seulement, le dit trou. D'après vous, d'après tout, chez nous, connaissez-vous qui pensez que chez nous, transformation, ça crée un changement de propriété. Oduli Mirat. Rejoignez-moi au moins Be'avda concernant le Eved, que des Kimun Karkaï Damé, qu'il devrait avoir le même statut qu'un Karka. Le Karka est un Nixelet, et comme on sait que on n'a pas la possibilité pratique de voler un terrain, et que le Eved il a été comparé dans la Torah au Karka, donc de même que le Karka il n'est pas Nixal, le Eved aussi il n'est pas Nixal. Cette notion-là, que le Karka est un Nixelet, elle tient au fait que le propriétaire d'un bien immobilier, que ce soit un arbre rattaché à la terre, un champ, une maison, en réalité, il ne possède jamais le gouffre, le corps du bien immobilier, mais il n'a que le droit légal de l'utiliser. C'est pourquoi le voleur qui va prendre possession du bien immobilier, tout ce qu'il fait, c'est empêcher le vrai propriétaire de l'utiliser. Mais ça n'enlève pas son droit légal de l'utiliser. Donc le voleur n'a rien ôté, il n'a rien enlevé à son propriétaire. Par contre, sur un objet, sur un bien immobilier, là, il est possible d'avoir plus que le droit d'utiliser, mais de posséder le corps, le gouffre de l'objet, comme si l'objet il était le prolongement de son propriétaire. Et cette capacité de posséder le corps d'un objet, elle est conditionnée, entre autres, par la faculté qu'on a de disposer, d'utiliser l'objet, de l'avoir sous son contrôle. Or, le voleur d'un bien immobilier, il prive le propriétaire du contrôle de l'objet, c'est lui qui maintenant en a usage et qui a la possibilité de le manipuler. Et c'est sur cet aspect de la propriété qui n'existe pas pour les biens immobiliers que s'exerce le vol des biens immobiliers. Maintenant, pour ce qui est du Eved, Kenani, Rabbi Meir pense que, de même, il n'est pas concevable qu'un homme il possède un bien immobilier, parce qu'en fait, chaque bien immobilier est rattaché à la planète Terre et personne ne possède la planète Terre. Au maximum, on peut avoir le droit légal de l'exploiter, de l'utiliser. Ainsi, il en va du Eved. C'est que l'Eved, il a une telle dimension spirituelle, de par le fait que c'est un homme. Et un homme, c'est comme un astre. Un astre ne peut pas contenir un autre astre. Un homme, il ne peut pas contenir, il ne peut pas posséder un autre homme. Au maximum, il peut avoir le droit légal d'utiliser son potentiel de travail. Et ce droit, il n'est en rien altéré par le fait que l'Eved ait été volé. Le voleur ne fait qu'empêcher le véritable propriétaire d'utiliser son bien, au même titre que celui qui va m'empêcher d'utiliser mon vélo,
parce qu'il va me retenir, il va faire obstruction, il va m'empêcher d'accéder à mon vélo, il ne sera pas appelé voleur du vélo, il m'a juste empêché d'utiliser mon bien. Ainsi, il en va d'un Eved ou d'un Karka, la seule chose que le voleur puisse faire, c'est empêcher le vrai propriétaire d'utiliser son bien. Les Chachamim, eux, sont bien d'accord avec Rabbi Meir sur la grandeur spirituelle du Eved, par le fait qu'il est un homme, et je pense que on peut posséder le corps d'un Eved parce que cette aptitude s'exerce sur son corps, sur sa dimension physique, et pas sur sa dimension spirituelle. À la différence du Karka, qui est rattaché à la planète, qui fait un tout avec cette planète, et donc qui a pas seulement un gigantisme spirituel, mais un gigantisme matériel, physique, qui l'empêche d'être possédé par un homme. Et puisqu'il n'est pas possédé, il ne peut pas être volé, même d'après le Chachamim. Revenons maintenant à notre but de chercher si Rabbi Meir pense qu'il nous connaît ou pas, puisque la dernière preuve a été refutée. Tashma. La Gemara dit, viens, écoute cette Mishnah qui dit juste après, Litzva lo Adam, si on a confié de la laine à un artisan pour la teindre en rouge, Litzva lo Shachor, il l'a fait en noir, Shachor, ou Litzva lo Adam, ou le contraire. Rabbi Meir Omer, Notenlo de Metzimro, l'artisan devra indemniser le propriétaire à concurrence du prix de la laine puisqu'il a failli à son engagement. Alors la Gemara déduit de Metzimro in, uniquement la valeur de la laine, de Metzimro ou Shofaro, par contre au prix de la laine et de la plus-value due à la teinture, donc, Beisagat Asar, et s'il te vient à l'esprit de dire que ça va Rabbi Meir, Shinui en connaît. Rabbi Meir pense que la transformation ne crée pas de changement de propriété. Alors de Metzimro ou Shofaro, bah il lui table. C'est le prix de la laine plus la plus-value due à la teinture qu'il aurait dû lui rembourser. Là, donc, là. Non, on oublie de maintenant, on voit bien de là que ça va Rabbi Meir, Shinui connaît, et c'est pourquoi la plus-value de la laine appartient à l'artisan.
Et la Gemara vient de prouver que Rabbi Meir pense que Shinui connaît, donc que la transformation d'un objet provoque le changement de propriété. Reste à expliquer alors Ve'acha. Et ici, dans la Braïta du haut, Rabbi Meir disait Meshalem ota ve'gizoteha ve'tadoteha nabomi, et la toison et les agneaux, pourquoi tout restituer au volé puisque Shinui connaît? Réponse Acha knasahut ve'kanis. C'est juste une mesure de rétorsion que Rabbi Meir veut prendre à l'encontre du voleur. Même les agneaux et la toison qui ont été transformés, donc qui sont en réalité propriété du voleur, on l'obligera à les donner au volé pour qu'il ne bénéficie pas de son avéra. Et la Gemara conclut, Shema Amina. C'est donc une bonne preuve que Rabbi Meir pense chez nous il connaît. Ikadamre, il y en a qui disent que Ha lo mi baelan, ça c'est un point qu'on ne s'est jamais demandé, savoir si Rabbi Meir y pense, s'il nous connaît ou pas, puisque Midea Pir Rav, fils Rav, il a inversé l'ordre des auteurs. Betani, il enseigne comme ça. Gazal para Vizkina, Avadim Vizkinu, Meshalem, Kesharata Gezela, dit Rabbi Meir. C'est donc Rabbi Meir qui dit que le vieillissement, ça provoque le passage de la vache dans la propriété du voleur, et il doit indemniser le volé. Rachmim Omrim Bavadim. Donc voilà, Rabbi Meir, si nous le connaît. Il est clair donc que Rabbi Meir pense, si nous le connaît. Alors, Vaha. Ici, dans la Beraïta qu'on est en train d'étudier, Rabbi Meir dit que le voleur doit rendre et la brebis, et les agneaux, et la toison, malgré qu'ils aient été transformés, forcément, c'est Knas, Sahoud et Kakanis. Ça n'est qu'une mesure de rétorsion qu'on inflige au voleur. Kika, Iba et Alan, par contre, ce qu'on s'est demandé, c'est la chose suivante. Kigakanis, lorsque Rabbi Meir, il est partisan de punir le voleur, Bemezid, est-ce que c'est seulement lorsque il a fait une faute sciemment, Aval de Shogeg, mais si c'est accidentel, Lokanis, dans ce cas, il ne sera pas partisan de punir, Odilma, ou peut-être, Afilu de Shogeg, peut-être même Shogeg, Nami également Kanis, et il punit. Ashma, bien, écoute, ce texte est écrit Hamisha Govin Mina Mahorarin. Il y a cinq choses pour lesquelles on ne peut faire une saisie que chez les biens disponibles, chez la personne qui en est redevable, mais qu'on ne pourra pas saisir si le débiteur il a vendu ses biens. Et l'Ouren, voici. La valeur des fruits qui ont poussé dans le champ de quelqu'un qui a acheté innocemment ce champ chez le voleur. Et le propriétaire du champ s'est manifesté, il a récupéré son champ,
avec les fruits qui ont poussé pendant l'occupation de l'acheteur. Et donc, l'acheteur maintenant se retourne contre le voleur de qui il a acheté le champ et il lui réclame et l'argent du champ qu'il a donné et les fruits qui ont poussé pendant le temps de son occupation. Le Shevar Perot, c'est la plus-value que l'acheteur a apporté au champ qu'il avait acheté du volé par ses investissements ou son travail et qu'il veut maintenant récupérer du volé. Alors cette Braïta nous apprend que l'acheteur ne pourra pas, pour s'indemniser, faire une saisie autrement que sur les biens disponibles chez le voleur, mais il n'aura aucun recours sur les biens que le voleur il aura déjà vendus. Le troisième cas, c'est Gabel Aladazun Ben Ishto Vatishto, un paraître qui s'est engagé à nourrir le fils ou la fille que sa femme a eue d'un autre mariage. Cet engagement ne vaut que pour les biens qui sont disponibles chez le paraître, mais le beau-fils ou la belle-fille ne pourront jamais avoir un recours sur les champs que le paraître a déjà vendus. Quatrième cas, Yetrov, une reconnaissance de dette chez Enbo Harayut, où il n'est pas stipulé que l'emprunteur il hypothèque ses biens à cette dette. Cinquième cas, enfin, Tuvat Isha, l'acte des engagements que le mari prend envers sa femme au moment du mariage, chez Enba Aharayut, où il n'est pas mentionné que le mari il hypothèque tous ses biens à ses engagements. Là également, la femme ou le créancier n'ont pas d'autre recours que celui de prendre les biens qui sont disponibles chez le débiteur ou chez le mari.
Alors elle me demande, Manchmatle, qui tu as entendu des Amar qui pensent que Aharayut, la mention de l'hypothèque qui ne figure pas dans un acte, lave taout, sauf en où. On ne dit pas que c'est un oubli de la part du scribe, mais au contraire, on dit que c'est intentionnel de la part de l'emprunteur, ce qu'il veut emprunter sans hypothéquer ses biens. Qui dit ça? C'est Rabbi Meir. Parce que les Chachamim, eux, pensent que n'importe quelle créance où l'hypothèque ne figure pas, on suppose qu'elle est implicite, ou que c'est au plus une erreur de la part du scribe. Donc, cette Braïta qu'on vient d'énoncer, c'est bien Rabbi Meir l'auteur, et Gatani, on enseigne dans cette Braïta, Perot ou Shevar Perot. Alors, Shevar Perot, Echidami, de quoi ça parle? Que Gantu Gazal Sadem Chavero, un voleur, il s'est approprié le champ du voisin, ou Mechara Laher, il a vendu à un acheteur, Vejbicha, l'acheteur l'a mis en valeur, il a dépensé, Vahare Hiyotza, Mitachat Yado, et maintenant, on vient la saisir de chez l'acheteur pour la remettre au véritable propriétaire, que chez Ugové, quand l'acheteur se retourne vers le voleur pour se faire indemniser et le champ et les investissements qu'il a fait dans ce champ. Tournons maintenant la page et reprenons d'en haut du DAF, c'est-à-dire Hé, Amon.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Le champ. Tournons maintenant la page et reprenons d'en haut du DAF, c'est-à-dire Hé, Amon Bet. Alors, donc, l'acheteur, quand il va se faire rembourser auprès du voleur, Gové est à Keren. Pour le capital du champ, il peut le saisir même Minachasim Meshobadim, même des biens qui ont été hypothéqués, même si le voleur entre-temps les a vendus, il ira les saisir chez les acheteurs éventuels. Vetha Sheva, par contre, ce qu'il a investi pour développer, pour améliorer le champ, Minrasim Benechorim, seulement des biens qui sont disponibles chez le voleur, il pourra se servir, mais jamais chez les acheteurs éventuels. Donc, on constate des hata qui peuvent venir, Balara, le vrai propriétaire du champ, Shekil Arae, il va reprendre son champ, Ushvare, et toute la plus-value que l'acheteur il a mise en valeur. On voit ici qu'on a sévi contre l'acheteur, alors que Maelab Ama arrête. N'est-ce pas qu'il peut s'agir même d'un ignorant qui ne sait pas les loyada des kakan xelet ou enan xelet, si le champ il est acquis au voleur ou à ses ayants droit. Afiluhachi, et malgré tout, Katiba al-Kaka, on permet au propriétaire de se saisir de son champ, Shakil Nuhara, ou Shvara, avec la plus-value. Shvamina, on doit comprendre de là que Beshoga dynamique, Anis, que Rabbi Meir,
qui est l'auteur de cette Beraita, il est partisan de punir même pour une faute qui n'est pas intentionnelle. Amré, il y en a qui ont dit pour refuter cette preuve, l'eau, non. Cette loi ne concerne peut-être pas un acheteur qui est ignorant, seulement Belokar Kamim Raham Zayada, mais uniquement une personne qui connaît la Lacha. La Gemara poursuit sa recherche, alors dit Tashma, viens écoute, un autre texte. Mishnah qui dit Litzvalo Adom, on a vu ça précédemment, Tzvao Shachor, Shachor Tzvao Adom, Rabbi Meir Omer, Notenlo de Me Tzimro. L'artisan qui a modifié les consignes du commanditaire, il doit rembourser, indemniser le propriétaire de la laine. Mais il est clair de la Mishnah que de Metzimro in, uniquement à concurrence de la valeur de la laine, mais de Metzimro Shvacho, par contre, la plus-value occasionnée par la teinture, l'eau, non. Visakadatar. S'il te vient à l'esprit de défendre le point de vue que Beshogeg Nami Keniske, même pour une faute qui n'est pas intentionnel, Rabbi Meir, il punit de Metzimro Shvacho, Bae, le Midvalet. Rabbi Meir aurait dû imposer à l'artisan de rendre pas seulement le prix de la laine, mais même le prix de la plus-value. Et là, donc lave. Non, Shema Midah doit comprendre de là que seulement Bemezid, comme pour le voleur de la Braïta, on avait apporté dans la Moudalef, là, Kanis, là, il a demandé est-ce que le voleur restitue tout la plus-value qu'il y avait en plus de la brebis, la laine et les agneaux. Beshogeg, mais pour une faute qui n'est pas intentionnelle, Lokanis. Là, il ne prend pas de sanction. Shema Amina, la Gemara conclut que c'est une bonne preuve. Maintenant qu'on a fini d'exercer la position de Rabbi Meir, on va passer à l'explication de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alors, dans le Braïta, on disait Rabbi Yehuda Omer, Gzela Chozeret Be'eneha, Rabbi Shimon Omer, Orinota, Kilum, Hishuma, Etzlo, Bekesef. Alors, on voit bien que globalement, ils veulent dire la même chose, c'est-à-dire que le voleur peut se suffire de rendre ce qu'il a volé, mais pas les fruits, la plus-value de son vol. Mais il faut éclaircir quand même Maïbinayou. Quelle est exactement la différence entre leurs deux points de vue? Amar Rav David, de Shevach Shal Gabe Gzela Kimfege. Ce qui est divise, c'est les fruits qui se sont développés sur l'objet volé et qui sont encore sur l'objet volé au moment où le voleur se propose de rembourser. Alors, Rabbi Yehuda qui réplique à Mimir, il lui dit, je suis bien d'accord avec toi que le voleur doive rendre la brebis avec tout ce qu'elle porte sur elle, c'est-à-dire l'agneau et la laine, même si ceux-ci ont continué à développer lorsqu'ils étaient chez lui. Par contre, tout ce qui s'est détaché du corps de la brebis, c'est-à-dire l'agneau, s'il est né, ou la laine, si elle a été entendue, ça devient la propriété du voleur, et il n'a plus qu'à rembourser la différence qu'il y a entre l'animal, la brebis vide qui restitue, et le prix de la brebis au moment où il l'a volée, avec le peu de laine qu'elle avait sur le dos, et aussi peu développé qu'était l'agneau qu'elle portait en son sein. Rabbi Shimon, lui, il est encore plus indulgent avec le voleur et il pense que le fait que la laine continue de s'étoffer sur le dos de l'animal et que l'agneau continue de se développer dans le sein de la brebis, ça constitue une transformation qui fait basculer l'ensemble dans la propriété du voleur. Et donc, il ne restera plus au voleur que d'indemniser le volé à concurrence du prix de la brebis chargée de la laine et de l'agneau au moment du vol. Rafa Pahama lui dit que Kule Alma, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon pensent tous les deux Sheva, Sheva Gabe, Gezela, Gazan Ave, que le développement qui s'opère sur la brebis au niveau de la laine et de l'agneau transforme la brebis assez pour la faire basculer dans la propriété du voleur. Et donc, concernant la réparation du vol, tous les deux pensent qu'il suffira au voleur d'indemniser le volé à concurrence du prix de la brebis chargée de la laine et de l'agneau au moment du vol. Et ici, le Mertza de Shishul Rabia, Kamifege, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon discutent du pourcentage, la moitié, le tiers ou le quart, selon l'usage, que le voleur pourra garder des produits qu'il a obtenus grâce au capital
du volet. Rabbi Yehuda Sava Shevar, Shagab Gezela Koulé, dit Gazlanavé. Le voleur n'a pas à reverser une partie de son bénéfice au volé, parce qu'il n'a jamais rien convenu avec lui. Par contre, Rabbi Shimon Savar, il pense, le Mertsa le Shalish ou Avia, ou des Shakil Gazlan, le voleur ne prend qu'un pourcentage, le pourcentage en usage entre les propriétaires et les bergers qui s'occupent des troupeaux, parce que finalement, ce bénéfice qu'il a fait, c'est quand même avec le capital du volé. Maintenant, la Guimara va demander une question contre un Fapa, Tenan. Dans notre Mishnah, on a dit Gazal para vint abera etlo veyalada. Rachel vint ana etlo uzaza. Shalem kishata gezela. On voit d'office ici que la Mishnah ne pense pas comme Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir disait dans Braïta que même le bénéfice qui s'est développé chez le voleur, une fois qu'il s'est détaché de l'objet volé, quand même il faut le restituer au volé. Notre Mishnah, par contre, on voit bien que elle laisse au voleur tout le produit qui s'est développé chez lui une fois qu'il s'est détaché de l'objet volé. Maintenant, cette indulgence envers le voleur, elle est quand même limitée, puisque elle laisse au voleur seulement le bénéfice une fois qu'il est détaché de l'objet volé. Donc il y a la da in, seulement si le petit est né. Lo y a la da hadrabena, mais si il n'est pas encore né, hadrabena, elle doit être restituée dans l'état avec la plus-value qui s'est développée chez le voleur. Alors là, Gmara constate que Bishlama, ça va bien, Rav Zevid, parce que lui, il est d'Amar, c'est lui qui avait dit Shevar, Shal, Gabé, Xela, Denigza, Lavé, au moins le Rabbi Yehuda. Ah, donc, notre Mishnah, on peut dire Mani, qui en est l'auteur, c'est Rabbi Yehuda. Et là, le Rav Papa. Mais d'après Rav Papa, d'Amar, qui avait expliqué, Dehazan avait, que la plus-value qu'il développe sur l'objet volé, même lorsqu'il est encore rattaché à l'objet volé, l'agneau n'est pas encore né, l'agneau n'a pas encore été tendu. Malgré tout, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Shimon que cette plus-value appartient au voleur. Et même que cette plus-value a opéré une transformation qui fait entrer l'ensemble dans la propriété du voleur. Ah, alors notre Mishnah, Mani, qui en est l'auteur? Le Rabbi Yehuda ou le Rabbi Shimon? Amal Rabbapa. Il m'a dit que Rabbapa peut nous répondre la chose suivante. Notre Mishnah qui parle de la plus-value qui est déjà détachée de l'objet volé, comme c'est dit dans la Mishnah, Yalada. En réalité, Huadin, ça serait exactement le même din à Filou le Yalada, même si l'agneau ou le veau n'était pas encore né, Nami également, il y a déjà transformation, et l'ensemble appartient au voleur, Keshat Agzela Houdem Shalem. Et le voleur n'a pas d'autre obligation que celle d'indemniser le volé à concurrence du prix de ce qu'il a volé au moment du vol. Alors, pourquoi la Mishnah, elle parle seulement de Yalada? Ça aurait été un plus grand chidouche de dire que ça appartient déjà au voleur, même avant la naissance, même avant que la haine soit coupée. Réponse, Hadid Inasib Risha Yalada. Comme dans la première partie de la Mishnah, on parlait d'un veau et d'une toison qui s'était développé chez le volé, pour que ça devienne propriété du voleur, il fallait bien sûr que ce soit déjà détaché de l'objet volé, c'est-à-dire que le veau soit né et que la laine soit coupée. Si, c'est pourquoi que dans la fin également, Nami Yalada, on a parlé d'une plus-value qui est détachée par similitude de présentation. Mais en réalité, c'est vrai que dans la deuxième partie de la Mishnah, puisque le bénéfice s'est développé chez le voleur, même s'il n'était pas encore détaché de l'objet volé, il serait déjà la propriété du voleur. Pania Karate Nerafapa. Maintenant, la Gemara dit qu'elle a carrément trouvé une braïta qui est explicite comme Rafapa. Rabbi Shimon Omer, Roin Ota, Keilu Hi Shuma Etzlo, Bekesef, le Mehetsa, le Shalish Ravia. On voit que cette braïta qui s'intéresse à développer la différence qui est entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, elle ne souligne que le pourcentage que le voleur doit donner au propriétaire de l'objet qu'il a volé. La Gemara va apporter maintenant des précisions concernant l'avis de Rabbi Shimon. Alors, Amar Bashi, Kiavinan bi Rav Kana, quand on a étudié chez Rav Kana, Ibayalan, on s'est posé le problème suivant. Le Rabbi Shimon, l'Amar, le Mehatsa le Shalish Rabia, ou de Shakil, Gazlan, d'après Rabbi Shimon, qui pense que le voleur, il ne prend qu'un pourcentage du bénéfice, Kimsel Kinanle, lorsqu'on le règle, Bedame Mesel Kinanle, est-ce que c'est en argent qu'on le règle au Dima ou peut-être Mi Besara Shakul, c'est en chair, c'est-à-dire en nature, Shakul qui prend sa part. Ou Pashtina, et on a déduit la réponse à cette chouette-là, mais un. De ce que y a dit Rav Nachman ou Nonchumel, Shlosha Shaminaen, il y a trois personnes Shaminaen pour qui on évalue Hasheva la plus-value qu'ils ont développée, ou Marlin Otan Bedamin, et on les règle en argent. Veilouen, et voici.
Le Chor, le Pashut. Ça parle d'un héritage que les enfants ont mis en valeur entre le décès du père et le moment du partage, et au moment du partage, le Bechor, bien sûr, il va prendre ses deux parts, mais toute la mise en valeur qui a été produite par l'effort, les investissements de tous les frères, bien sûr, elle ne revient pas intégralement au Bechor. Alors, comment est-ce qu'il va indemniser son frère qui ne prend qu'une seule part? Réponse, Bedamin. Il l'indemnisera en argent, mais en aucun cas, le frère qui prend une part, il sera partie prenante sur la nature même du bénéfice de la mise en valeur qui a été produite par son travail. En deuxième cas, le Baal Chov, le créancier qui va saisir le champ que l'emprunteur a vendu et que l'acheteur a mis en valeur jusqu'à ce que le champ soit saisi par le créancier. Alors là aussi, on dira que l'acheteur n'aura pas d'autre prétention que d'être indemnisé en argent par le créancier. Troisième cas, Baal Chov Laïtomim, le créancier qui vient saisir le champ de l'emprunteur après sa mort, et qui doit indemniser les orphelins héritiers qui ont mis en valeur le champ du père jusqu'au moment où il a été saisi. Là aussi, ce n'est qu'en argent que les enfants pourront être indemnisés, mais en aucun cas en nature. Les Shonim comprennent que de ces trois cas-là, il faut déduire que pour notre voleur, qui doit aussi prendre un pourcentage de la plus-value qui s'est développée sur l'objet volé, ça sera aussi en argent que ce pourcentage-là devra lui être versé, mais pas en nature. J'avoue que tel que Rashi a expliqué à Gemara plus haut, à savoir que Rabbi Shimon pense que le développement de la laine et de l'agneau sur la brebis volée constitue un chinouille qui fait basculer l'ensemble dans la propriété du voleur, il apparaît évident que tout appartient en nature au voleur. C'est plutôt du côté du volé qu'il faudrait se demander si le pourcentage que le voleur lui doit, s'il doit lui verser en nature ou en argent. À ce stade, on a terminé d'expliquer la Braïta, la vie de Rabbi Meir, de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. Et on passe maintenant à l'explication des paroles de Shmuel, puisqu'on a un point contradictoire concernant Amarle, Ravina, le Ravashi. Mais Amar Shmuel, est-ce que Shmuel a dit une telle chose que Baal Hov le Lokia Yehivle Sheva? Est-ce bien vrai que Shmuel, il aurait dit une chose comme ça, que le créancier qui vient saisir le champ qui est hypothéqué à sa dette des mains de l'acheteur, il doit reverser à l'acheteur la plus-value que l'acheteur il a développée dans ce champ jusqu'au moment où il a été saisi. Pourtant, par ailleurs, Amar Shmuel, Shmuel il a dit, autre part, Baal Chov Kove et Hasheva, le créancier, il prend non seulement le champ, mais même toute la plus-value à son compte. Amar Le Ravashi l'a répondu, Lokashia, c'est pas difficile. Ça dépend de quelle plus-value il s'agit. Kan, dans un cas, il s'agit d'un Sheva Hamagia Liktafaim, littéralement, un développement, une amélioration qui arrive aux épaules. D'après Rashi, ça veut dire une récolte qui est déjà bien développée, qui est prête à cueillir. C'est pourquoi on la considère comme s'il a été séparé du champ. C'est pourquoi le créancier, bien qu'il prenne le champ, il doit rendre la valeur de ce bénéfice. Par contre, Kan, Beshevar, Shehen Magia Liktafaim. Quand Shmuel a dit que le créancier il saisit aussi la plus-value, ça parle de fruits qui sont encore pas mûrs et donc qui ont un lien encore avec ce champ. C'est pourquoi ils sont considérés comme une partie du champ. Alors, Ravina il lui a dit, mais pourtant, Hama, Simecholium, tous les jours il arrive que Kamagbe, Shmuel, Afilushevar, Hamagia Liktafaim. Shmuel, il va saisir au bénéfice, au profit du créancier, même le développement des fruits qui sont prêts à consommer, qui sont prêts déjà à récolter. Amarle, Rashi a répondu, Lokasha, ça n'est pas difficile. Passons maintenant au daf suivant, Daf Sadivav Amoud Aleph.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.